Récemment, nous nous sommes rendus compte que nous avions de gros problèmes de dépendance. Nous avons perdu des amis, engraissé démesurément, essayé toutes les saveurs de chips inimaginables et déformé notre posture à jamais. Et oui, nous souffrons probablement d'une addiction maladive au petit écran. Pour contrer notre addiction, nos psychologues nous recommandent de ne pas regarder la télé pendant au moins une heure par semaine.
Donc, on enregistre votre guide télévisuel! Les Exaltés du Divan, épisode
18!
Bonjour tout le monde, bienvenue aux Exaltés du Divan. Je suis en compagnie
d'Erika.
Et je suis
Simon.
Et oui, nous sommes des fans de télé. Aujourd'hui, donc, épisode 18, un gros épisode, on va vous parler de nos séries hebdo, safe, otaku, des nouvelles affaires, des vieilles affaires.
C'est des nouvelles... En fait, je vous en ai pas parlé, mais j'avais comme mon petit hebdo personnel.
Ah, bon, ben, on va
donc,
voir ça
par qui est encore en cours, fait que je vais vous le présenter. Et toi, t'as aussi ton petit hebdo personnel, en fait.
Ouais, moi qui ai fini, en fait, fait que je vais pouvoir faire le tour sur safe. Sinon, chronique série de caca, ça
ouais,
fait longtemps.
Aujourd'hui, ouais. Et ensuite, je vais vous parler d'un anime.
Oui, c'est bon. Moi, je vais vous parler de Tommy Wiseau.
Oui, et finalement, on va vous parler de notre série de couple, 13 Reasons Why, saison 2.
Oui, absolument. Donc, Safe, série hebdo sur Netflix. C'était quand même une série assez courte. Je pense qu'ils vont avoir une saison 2, j'imagine. Safe, j'en avais parlé un petit peu la semaine d'avant, là c'est terminé, donc ça fait un petit bout là, que je l'ai regardé au complet. Pas très bon malheureusement, non, c'est un truc d'enquête policière, puis tout ça, c'est où tu sais c'est le père qui enquête sur la disparition de sa fille.
Ok.
Donc sa fille disparaît, lui enquête dessus, puis c'est vraiment comme policier, mais avec pas trop d'affaires de police, vraiment plus, parce que le gars, c'est pas un policier, tu sais, il fait juste une enquête comme n'importe quel parent le ferait pour son enfant disparu.
Ok, avec les moyens qu'il a.
Ouais, c'est ça, puis tu sais, il essaie de retracer un peu l'histoire, et le début est vraiment cool, en fait, t'es comme, ok, c'est intéressant, on sait pas où ça s'en va, tout ça. Finalement, ça se termine en espèce de gros complot, de genre, ah, oh, les parents, ils avaient fait ça quand ils étaient jeunes, donc là, ça se retourne contre eux, puis là, la fille a enquêté elle-même sur ça, donc ça devient mélangeant, ça devient un peu trop gros aussi, un peu trop exagéré, donc malheureusement, safe, j'avais beaucoup d'espoir pour cette série-là, mais je vous le recommande pas nécessairement, c'est un 12 épisodes bien gaspillé.
Mal investi.
Ouais, c'est ça, exactement, donc, c'est ça, safe, pour ceux qui aiment les séries policières, vous allez trouver ça pas pire.
Mais ouais, pas pire.
Ouais, ceux qui aiment les affaires un peu quétaines, je pense que vous allez aussi aimer ça.
OK. la série que hebdo que je regarde, c'est Otaku Nikoi wa Mizukoshi. C'est L'amour est difficile pour les otaku ou Life is hard for otaku, en tout cas. C'est sur Amazon Prime.
Amazon Prime!
Et oui! En fait, c'est intéressant avec cette série-là, qui est toujours en cours. C'est que c'est l'auteur Fujita avait commencé à publier son prototype de manga, si on veut, sur une plateforme qui s'appelle Pixiv, que c'est pas très populaire, je pense, en Amérique du Nord, mais c'est comme une plateforme vraiment utilisée beaucoup au Japon pour les débutants, justement, qui font des mangas et tout ça. Et aussi, en fait, c'est des gens qui font juste comme... C'est comme un genre de DeviantArt aussi. Okay. Où des gens font des images et tout ça. Puis elle s'est fait remarquer et publier. Donc, le manga il est aussi en cours. Puis ça a tellement été populaire que maintenant, il y a un anime. Exact. Okay. Et en fait, ça raconte l'histoire de quatre adultes qui sont des employés de bureau, là, des salaryman, comme ils disent. Et c'est comme deux couples qu'on suit qui sont des otaku vraiment profonds, là. Donc, il y en a la fille, comme les deux filles principales, il y en a une, elle, c'est vraiment une fujoshi, ça veut dire qu'elle a capote sur le boys love, les trucs de yaoi et tout. Et l'autre, en fait, c'est une fan de cosplay vraiment intense.
Okay.
Et leurs deux chums un peu, c'est un gars qui joue vraiment démesurément beaucoup à trop de jeux vidéo, puis l'autre qui capote un peu sur le moe, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est comme un peu, mettons, tu sais, les filles cute et ces trucs-là. Donc, on les suit un peu dans leur vie de tous les jours, au travail, c'est vraiment... Fait que c'est le fun aussi de voir peut-être une série un peu plus vieille, parce que... Tu sais, c'est bien beau tout le temps les affaires qui se passent à l'école, mais à un moment donné, on a fini le secondaire depuis longtemps. Fait que là, c'est fun, tu sais, c'est le marché du travail, puis c'est aussi quelque chose que les gens, ils veulent un peu cacher. Mais ce qui est drôle aussi, en fait, c'est qu'un des couples, c'est des otaku, mais qui étaient bons en sport aussi. Fait que, tu sais, c'est une espèce rare d'otaku, ouais, tu sais, il en parle. Okay. Fait que, en tout cas, c'est le fun. Puis, en fait, tu sais, chacun d'eux essaie un peu de s'intéresser aux choses des autres. Puis, tu sais, ils vont toujours boire ensemble, ils font plein d'activités ensemble, fait que c'est cool. Puis aussi, en fait, c'est comme, c'est aussi une nouvelle relation qu'il y a avec un des couples. Donc, tu sais, c'est comment il passe d'amis à une relation de couple. Donc, c'est vraiment, vraiment une bonne série. Puis, en fait, j'ai lu le manga aussi, qui est encore en cours. Et en fait, c'est assez fidèle au manga. Puis, il y a comme une bonne petite touche d'humour aussi. Fait que, puis pour les gens qui sont un peu otaku, là, ou qui ont certaines connaissances dans certains domaines, c'est vraiment drôle. Ce qui se passe. Fait que je vous le recommande grandement.
Et ça fait combien de temps que c'est commencé, l'animé?
C'est peut-être rendu à, mettons, le 2/3 déjà qui est passé.
OK.
Ouais. Fait que d'après moi, il devrait avoir 13 épisodes, puis c'est ça. Fait qu'on est rendu peut-être au 8.
OK, cool.
Ouais.
Bon, ben c'est bon. C'est quoi le nom de ça?
C'est Love is Art for Otaku, l'amour est difficile pour les otaku, ou Otaku Nikoi wa Musukashi.
Ok, cool. Bon, ben, une série pour les adultes, un animé plus adulte.
Ouais, mais c'est pas sexuel ou, tu sais, c'est pas adulte dans le sens, tu sais, quand on choisit le tag adulte, d'habitude, c'est parce qu'il y a des trucs sexuels. Non,
c'est
plus...
le sujet traite ouais. Les personnages chez des adultes.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est des enjeux un peu plus adultes, dans le fond. C'est plutôt ça.
Ok, cool. Bon, Fakirka, maintenant, ça fait un petit bout qu'on n'avait pas fait série de caca.
Et oui, parce qu'il faut les accumuler, nos séries
ouais,
de caca.
Ouais, ça, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est des séries de caca, mais ouais. Bon, toi, t'en as quelques-unes en banque. La dernière fois, t'en avais pas, mais là, t'en as quelques-unes.
Ouais, ouais. En fait, j'ai commencé sur Prime Tokyo Vampire Hotel.
Et j'ai assisté à un ou deux épisodes.
Ouais, en fait, c'est vraiment, vraiment... pas rapport. C'est comme une mini-télésérie d'horreur qui est réalisée par Sion Sono. Et en fait, justement, on voit la blonde ou sa femme là-dedans. Là, puis, tu sais, c'est tout... ce gars-là, habituellement, il est plus dans les trucs justement pour adultes, dans le sens comme porno, là. Fait que c'est comme un peu un truc sexuel, mais en fait, c'est comme... pas comprenable c'est quoi l'histoire. Premièrement, la réalisation est tellement bizarre, les couleurs qu'ils utilisent sont vraiment étranges, le contexte, tu comprends rien, là, jamais, genre, pis tu suis ça, pis là, il y a comme une affaire avec le clan, tu sais, des Dracula, genre, pis là, des descendants des Dracula, pis là, tu sais, ils vont, genre, baiser, genre, des humaines, il y en a qui sont pognés dans un hôtel, pis tu sais, il faut qu'ils se reproduisent entre eux parce que l'humanité est détruite, mais comme, c'est n'importe quoi, en fait, tu comprends jamais rien, pis plus que t'avances, moins que tu comprends, fait que j'ai juste abandonné la série, c'était terrible.
Mais c'est un truc humoristique quand même, ça ouais, c'est important c'est pas drôle. De le mentionner. Non, c'est pas très drôle, mais tu sais, c'est fait avec une touche humoristique, des couleurs vraiment vives, tu sais, c'est un peu à la Tim Burton pratiquement.
Ouais, mais je suis pas sûre que c'est voulu d'être drôle.
Ben, je pense que oui quand même, là, sauf que ça a l'air cheap, effectivement.
Non, c'est cheap, incompréhensible, pis je sais ça. Ensuite, deuxième série de caca. En fait, ça s'appelle Happy Marie dans le manga, mais c'est Happy Marriage ou Mariage, Happy Mariage, le titre complet. C'est en fait inspiré d'un José qui avait vraiment été populaire à l'époque. C'est un live action avec des vraies personnes, mais c'est vraiment une histoire d'employé de bureau banal, la fille qui se retrouve mariée avec le gars le plus hot sur la planète. Genre.
C'est un animé ça ou...
C'est un manga à la base. Je crois qu'il y a eu un animé, mais là ça c'est la série télé live action. Okay. Mais en fait c'est vraiment mauvais, puis. Tu sais, ça a comme mal vieilli aussi un peu parce que on s'entend que, tu sais, au Japon, la femme, tu sais, soit femme au foyer, tu sais, je m'en fous que tu sois vraiment quelconque en autant que tu sois bonne pour me faire de la bouffe. Tu sais, c'est comme ça un peu les messages. Fait que c'est vraiment de la merde comme truc. Je vous le recommande pas du tout, même si c'est un classique que dans le temps, là, le José, comme quand c'est sorti en manga, ça mal vieilli. Fait que ça, je recommande pas ça par doute. Et... ma dernière série de caca, en fait, c'était... Je me disais que j'écoutais ça parce que ça avait l'air vraiment de la merde, mais finalement, j'ai comme pris goût. Ça s'appelle Real Love sur Netflix. En fait, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui ont un lourd secret et qui cherchent l'amour pendant 3 jours à Okinawa. Puis c'est animé en fait par Atsushi Tamura, qui était reconnu pour être genre le numéro un playboy genre du Japon, et Mari Yaguchi, qui est une idol japonaise qui était pognée dans des gros scandales sexuels, genre. Fait que les deux sont comme ils ont comme une réputation un peu douteuse, fait que ça s'adapte vraiment bien au contexte de l'épisode. Et en fait il y a 18 personnes, puis on apprend des sombres secrets à chaque épisode, soit deux, environ deux par épisode. Et c'était, il y en a qui sont endettés, il y en a qui c'est des acteurs porno, des trucs comme ça, mais tu sais, ils sont là pour comme rencontrer des gens, tu sais, il y en a qui sont criminels. Fait qu'en tout cas, il y en a un aussi qui est vraiment bizarre, je vais pas vous dire c'est quoi parce que je vous encourage vraiment de regarder la série télé, mais il y a des trucs un peu fuckés quand même. Puis moi, je trouvais que c'était un bon truc malsain à regarder.
Une bonne série de caca comme on les aime, là.
Ouais, mais tu sais, pour vrai, c'est vraiment une bonne série de caca.
Ouais, mais les séries de caca, moi, dans ma tête, je constate que c'est supposé d'être bon, hein, tu sais, c'est supposé d'être intéressant, t'es supposé de vouloir le regarder, ça te rend un peu accro d'une façon,
Ouais, mais c'est parce que, tu sais, l'autre, Happy Marie, ça me rendait accro un peu à la même façon que Top Model peut me rendre accro, tu comprends?
Ouais, ben c'est ça, des séries de caca.
Mais Real Love, c'est comme, il y a comme quelque chose de plus.
Ouais, ben tu m'en as parlé pas mal l'autre fois, puis justement là, j'étais étonné de voir que tu le mettais dans tes séries de caca parce que justement t'en avais parlé avec beaucoup d'entrain.
Mais c'est parce que c'est vraiment, tu sais, tu regardes ça, c'est cave, mais genre en même temps, je sais pas, on dirait que vu que c'est des secrets sombres, c'est comme un petit côté, il y a comme un petit côté voyeuriste là, qui, je sais pas, choquant.
Ok, ben de mon côté, les séries de caca, j'ai regardé la série de Netflix Fastest Car. Fastest Car, c'est quoi le concept? C'est qu'à chaque épisode, il va y avoir des courses entre des sleeper cars, qu'ils appellent. Donc des sleeper cars, c'est quoi? C'est la Honda Corolla de vos parents, mais que tout l'engin a été refait, tout le moteur, toute la voiture a été refaite.
Un char monté.
Ouais, mais tu sais, qu'il y a de l'air de rien.
Ah, okay.
Fait que quand tu le regardes de l'extérieur, il n'y a pas une sorte de néon dessus, pis de mag qui tourne, pis ça, c'est comme si c'est un sleeper. Fait que ça veut dire que tu peux te promener, aller à la job avec, mais tu peux l'amener directement après la job à faire des courses avec. T'sais.
Ok.
Donc, il va y avoir trois sleeper cars par épisode et un super car qui appelle donc des Lamborghini, des Ferrari, des Lotus, donc toutes les voitures vraiment intenses. Et en fait, ils vont faire une course à la fin de l'épisode.
Ok.
Et on apprend beaucoup sur, particulièrement, les gens qui fabriquent les sleepers, donc un peu c'est quoi leur vie, tout ça, tu sais, ça a l'air quand même d'une vie difficile, d'un mode de vie assez spécial, qui frôle un peu la criminalité, tout ça. Et ben à la fin, au dernier épisode, en fait, les gagnants de chaque épisode vont revenir pour faire une méga course dans le désert. Donc c'est ça, c'est vraiment une série de caca en fait, c'est des chars, hein, c'est des courses de chars, donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre de mieux que ça?
C'est ça.
Est-ce
qu'il y a des autos électriques?
Il y a quelques autos électriques, effectivement, malheureusement, ils n'ont pas le meilleur, les meilleurs résultats.
Ok.
Mais bon, pour diverses raisons, je vais pas tout vous gâcher quand même, cette série de caca fantastique. Parfait, moi je l'ai regardé en fait, c'est des épisodes qui durent une heure, mais je vous dirais qu'à partir du deuxième ou troisième épisode, j'ai commencé à les regarder en à peu près 10 minutes.
Ah ok, ouais.
Donc je regardais la présentation de chaque personne, j'allais à la course à la fin, je passais à l'autre épisode, ça c'était parfait. J'aurais voulu des épisodes de... En fait, j'aurais voulu que cette série-là dure 2 heures.
Okay.
Ça aurait été magnifique. Oui, sinon il y a beaucoup de répétages, puis on dirait qu'ils font des places pour les annonces, même si c'est sur Netflix, tu sais, fait qu'en tout cas. Bon, deuxième série de caca, Storage War, Norton Treasure. Donc Storage War, tout le monde connaît le concept, les gens se pointent dans des entrepôts qui n'ont pas été payés.
C'est la version canadienne, c'est ça?
Mais le Storage War, Norton Treasure, en fait c'est la version canadienne de Storage War, en fait ça se passe au Canada, c'est disponible sur Netflix. Ça vient juste de sortir, il y a comme 40 épisodes. C'est un vrai bijou, cette série-là, en fait. C'est fantastique. Donc, les gens font des enchères pour acheter des entrepôts abandonnés. Puis là, ils savent pas qu'est-ce qu'il y a dedans parce qu'ils ont pas le droit de regarder plus que 10 secondes dedans. C'est superbe, en fait. J'adore ça. Par contre, ils ont un peu trop poussé. Tu sais, on sait que c'est... En tout cas, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que c'est stagé, là, Storage War, qui vont cacher des choses dans les entrepôts pour que, justement, il y ait comme plus d'affaires cool à découvrir. Mais là, dans celui-là, ils se cachent vraiment pas parce que dans chaque entrepôt acheté, il y a une affaire rare qu'ils doivent amener chez le spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, chez le spécialiste des timbres, chez le spécialiste des parachutes, chez le spécialiste de peu importe quoi, pour faire évaluer la valeur de leur objet. Donc, à chaque épisode, chaque personne qui achète un
Ah
entrepôt
oui,
trouve quelque chose dedans.
j'avais vu les petits épisodes, c'était des petits meubles de maison, de
Oui,
poupées
des
faites à
petits
la
meubles de
main,
poupées faits
là.
à la main. Donc, tu sais, il y a vraiment n'importe quoi là-dedans. Les gens trouvent de tout et de rien. Bien entendu, la complicité entre les personnages est ultra importante, hein, parce que chacun a son rôle à jouer là-dedans. Donc, super Storage Wars, ça vient d'être sur Netflix. Ça vaut vraiment la peine. Idéal pour occuper les soirées, les fins de soirée, en fait.
Ah ouais.
Oh, ouais, c'est magnifique.
Je te dirais avant d'aller te coucher.
Ouais, tu regardes ça pendant 2 heures avant d'aller te coucher, là. Après, t'es tout bien, là.
Ah
Tout ton stress s'est envolé, là.
ouais. Ok. Donc,
Ok, alors c'était les séries de caca.
oui, et là j'enchaîne avec ma série qui est en fait un anime sur Netflix qui ça fait ben c'est 2017 je pense. Ça fait un petit bout qu'il est là, mais je l'avais pas écouté parce que je me disais ah c'est bon, c'est je savais que c'était un travail original en fait. Ça veut dire qu'il y a pas de c'est pas inspiré d'un manga en fait, c'est vraiment une création originale qu'ils ont faite directement en anime. Et c'est par Kazuto Nakazawa, c'est le gars qui a fait Samurai Champloo et Terror in Resonance, pour ceux qui connaissent. Donc la série que j'ai regardée, c'est Be the Beginning. Ça m'a comme un peu déçue parce que il y a vraiment deux histoires dans une et c'était peut-être pas nécessaire de vouloir les jumeler à tout prix. Donc, on aurait pu faire comme un anime avec une partie d'histoire, puis un anime avec l'autre partie. Puis on essaie tellement de forcer comme les deux éléments ensemble que ça rend ça vraiment bizarre. Parce qu'il y a comme un élément vraiment surnaturel. Il y a des gens qui ont comme des genres de pouvoirs, là. Il y a un gars, il y a des ailes, et ils peuvent sortir des armes de leur corps. Puis tu vois qu'il y a vraiment ce côté-là plus surnaturel. Et tu as vraiment tout le côté super rationnel. Police, enquête, qui essaie de résoudre des crimes. Et en fait, comme tu comprends ça au fur et à mesure, mais tu sais, je l'ai plus compris en lisant en le résumé là, que vraiment en écoutant l'anime là. Mais dans le fond, ils ont comme c'est dans un univers parallèle là, ils ont décidé de créer comme des super humains pour comme faire pour entretenir la peur pour que la paix règne, si on veut. T'sais, puis là, évidemment, ça dégénère. Puis là, il y a toute une affaire de prophétie avec ça, tout le côté spirituel de la chose, avec tout l'aspect surnaturel. Et dans le fond, le protagoniste, qui s'appelle Koku, qui est celui qui a, genre, le pouvoir et tout ça, ben, tu sais, il cherche une fille, fait qu'il tue du monde pour se faire remarquer dans la presse en laissant son nom, genre, pour que la fille elle se souvienne de lui, tu sais. Mais puis là, de l'autre côté, moi, je pense en fait que c'est le vrai protagoniste de l'histoire, c'est Kid, c'est un inspecteur légendaire, genre du Royal Investigation Service. Eux, ils enquêtent sur les meurtres, puis les enfants, ils se rendent compte qu'il est lié avec comme tout le côté de la prophétie, mais c'est tellement bizarre, ça va tellement pas bien ensemble. Puis lui, il enquête sur le meurtre, en fait, d'un tueur en série qui a assassiné sa sœur, qui l'a découpé en morceaux. Fait que, tu sais, est-ce que c'était nécessaire de tout foutre ça ensemble? Non.
Mais là, c'est-tu médiéval, ça, ou...
Ben, c'est pas médiéval, mais ça se passe comme un peu, je te dirais un genre de Vienne, Rome, un peu futuriste, mais tu sais, avec plein de vieilles architectures européennes.
OK.
Fait que, je sais pas, tu sais, en fait, je trouvais que le côté surnaturel, il était vraiment plat, pas intéressant. C'était vraiment nul, puis l'histoire, généralement, peut-être, ça aurait été cool d'avoir un anime qui est seulement sur les enquêtes, tu sais, comme il y avait plein de meurtres, pis tout ça, t'enquêtes là-dessus, pis tu sais, le gars, il essaie de retrouver c'est qui le tueur, dans le fond, qui a tué sa sœur, ça aurait été parfait comme ça, puis le gars, justement, c'est comme il l'appelle le génie aussi, là, tu sais, il capote, là, il fait tout le temps plein de mathématiques sur ses murs, des équations pour faire des probabilités, tu sais, le vrai protagoniste, moi, je trouve que c'est lui, tu sais, c'est le personnage le plus intéressant, il a un petit côté sombre, l'autre, qui se posait être le vrai protagoniste, il a tellement juste pas rapport dans l'histoire que, je sais pas, ça a tué le truc.
Ok,
Ouais.
ça a l'air d'être un genre de Death Note un peu, le même genre d'univers
Ouais,
ou...
c'est ça. En fait, oui, ils ont comme essayé de reprendre des éléments. Ils se sont dit, oh ouais, Death Note, c'est une recette gagnante. On mélange du surnaturel avec une enquête policière. Puis là, ben, ça marche vraiment pas, tu sais.
Ouais,
Fait
ok.
que, non, c'est ça.
Bon.
Décevant, déception.
The Beginning.
Ouais, Be the Beginning. J'espère qu'il n'y aura pas de deuxième partie.
Mais est-ce que ça se termine ou ça se termine un peu comme s'il y allait avoir une deuxième partie?
Je pense que ça se termine vraiment.
OK.
Mais il pourrait, tu sais, avoir un autre truc. Ils vont sûrement sortir une autre histoire ancienne de prophétie X, tu sais, ils vont trouver une merde, là.
Ouais, comme Da Vinci Code.
Mais Da Vinci Code, c'est quand même meilleur, je pense.
Ah, OK.
Fait que, en fait, tu vois, Da Vinci Code, eux, ils ont bien mélangé le genre de supernaturel religieux avec une enquête policière. Ben, en tout cas, j'ai pas vraiment écouté les films, là, mais j'ai lu, comme, j'avais lu deux livres, je pense, pis c'était quand même bien fait. Ça, c'est juste pas bien fait.
Ah, ouais, dommage. Dommage. Ça peut pas être un succès à chaque fois.
Exact. Fait que le gars qui a fait Samurai Champloo, ben, il est pas tout le temps bon.
Ah, ça arrive de rater la cible à certains moments.
Dommage.
De mon côté, en fait, j'ai écouté un film qui venait d'être mis sur Netflix et que ça faisait longtemps que je voulais écouter. C'est pas un film qui est fait par Netflix, donc c'est juste un film qui est disponible sur Netflix. C'est le film produit et réalisé par James Franco, The Disaster Artist, ou en français, L'Artiste du Désastre. Mais bon, The Disaster Artist, je pense que ça va être bon. Sorti en 2017, dans le fond, James Franco, on le sait, là, depuis les dernières années, il a fait plein de projets vraiment funky, là, puis celui-là, en fait, il est excellent parce que c'est une espèce de biographie de Tommy Wiseau. C'est qui Tommy Wiseau? C'est le gars qui a fait The Room. C'est quoi The Room? C'est considéré comme le pire film des, mettons, je sais pas. Ben, il est considéré comme un des pires films de tous les temps, en fait. Le Citizen Kane des films de merde. Donc, Tommy Wiseau, c'est un gars vraiment fucké qui est apparu à Hollywood début des années 2000. Ben, début des années mi-90. Personne sait c'est qui, personne sait il vient d'où, personne sait où il a eu son argent, puis il a dit « Ok, on va faire un film, ça va s'appeler The Room », puis il a engagé une équipe, il a financé le film de sa poche. Il l'a tout fait lui-même, en fait, il joue dedans, il l'a écrit, il l'a réalisé. Et il a même il a fait de la promo comme un malade quand ce film-là est sorti à Hollywood. Il a invité plein de gens à sa première, il avait placardé des affiches sur ses murs, des gros babillards, des grosses tu sais, annonces d'autoroute, il avait acheté des panneaux. Il a même payé pour que le film reste au moins 2 semaines dans plusieurs cinémas parce que ça, c'est le temps qu'il faut pour qu'il soit éligible à être aux Oscars.
Ah ouais.
Bon, c'était sûr que le film, il allait pas gagner d'Oscar, mais le gars, il était tellement dedans qu'il a payé les cinémas pour qu'il garde le film longtemps. C'est un film qui a fait vraiment peu d'argent. En fait, ça a été un désastre financier. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ce film-là, The Room, est devenu culte.
À cause que c'est mauvais.
À cause que c'est comme trop mauvais, mais en même temps, c'est un film qui est vraiment drôle, comme quand tu le prends au deuxième degré. Le genre de film que tu pourrais mettre à Fantasia,
okay.
Puis qui marcherait trop bien. Là, t'sais, les gens y embarqueraient dans l'histoire. Les gens, c'est le genre de film qui devient culte. Les gens vont citer des répliques, vont participer dans le film. Parce que c'est tellement mauvais que tu peux même pas croire que c'est pour de vrai que c'est ça. Donc, The Disaster Artist, qui est le film de James Franco, en fait, ça raconte l'histoire de Tommy Wiseau pendant qu'il faisait The Room.
Okay.
Il rencontre principalement son meilleur ami, qui est Greg Sestero, en fait, excusez-moi, et qui est encore avec lui dans ses nouveaux projets de Tommy Wiseau. Ils sont devenus amis depuis ce temps-là et ils continuent de faire des projets ensemble. Donc c'est ça, c'est vraiment intéressant. Ça rappelle un peu le film de Tim Burton, Ed Wood, où on voit Ed Wood dans sa carrière de réalisateur. Donc c'est vraiment le même genre de gars. En fait, moi, pour moi, Tommy Wiseau, c'est le Ed Wood des années 90-2000. Okay. Ça rentre vraiment dans la même catégorie. Un gars qui a une vision très très précise, mais qui est pas très bonne dans le fond.
Ouais.
Mais qui arrive quand même à créer un culte autour de lui. Donc The Disaster Artist, super intéressant. En fait, quand j'ai fini de l'écouter, j'ai pas pu m'empêcher d'aller sur internet pour trouver The Room.
Okay.
The Disaster Artist, en fait, ça se termine à la fin pendant le générique. Ils mettent des plans du film original et des scènes que eux ont refaites dans le fond. Puis c'est comme, tu sais, oh non, ce film-là, il existe pas pour de vrai. Je peux pas croire qu'il y a un film comme ça. Fait que je suis allé le downloader, The Room. J'ai regardé ça. Il était 1h30 du matin quand j'ai commencé à le regarder. Et c'est un film vraiment, vraiment douteux. J'aurais aimé mieux le regarder avec des amis, ça aurait été plus drôle, mais en même temps, j'étais quand même crampé tout le long, tout seul, à 2h du matin chez nous à regarder ça. Je vous conseille vraiment de vous faire un visionnement de The Room, de Tommy Wiseau, parce que ça s'explique même pas, en fait, comme ça. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'un gars qui... sa femme le trompe, puis... c'est ça. Tu sais, comme, il y a pas d'autres choses, puis tout est vraiment bizarre là-dedans. Les plans font pas de sens. Les personnages ont l'air de pas avoir une vie réelle. Il y a plein d'éléments qui sont amenés dans le film, mais qui reviennent jamais plus tard.
OK.
Tu sais, à un moment donné, la grand-mère a dit comme, ah, j'ai le cancer du sein, mais tu sais, elle n'en reparle jamais. Puis
OK.
comme, elle est même pas triste, sa fille est pas triste, c'est comme, il a fait juste le dire, mais ça revient jamais. À un moment donné, il y a un gars qui se fait presque tuer parce qu'il doit comme plein de cash à quelqu'un, mais c'est jamais expliqué, puis ils reviennent jamais là-dessus. Donc, il y a comme plein d'affaires qui sont ouvertes. Puis là, en plus, dans The Deserter Artist, il parle un peu de ce concept-là. Puis là, Tommy Wiseau, le personnage, bien entendu, il dit, oh non, it's a twist. It's a twist. Mais tu sais, comme,
Ah
tu vois que
ouais.
le gars, il connaît pas les humains, ou il écrit un genre d'archétype de plein de scènes. C'est extrêmement bizarre comme film.
C'est peut-être un sociopathe fonctionnel.
Peut-être, ou c'est peut-être un gars qui a vraiment juste fait une big joke, là, tu sais, comme, mais on le sait pas, là. Donc, je vous encourage vraiment, parce que même à ce jour, on sait pas Tommy Wiseau, où il a eu son argent,
Il y
c'est
a
qui ce
quel
gars-là,
âge?
il a quel âge, d'où il vient vraiment. Ça reste un personnage extrêmement...
Il a comme créé une légende un peu autour de lui.
Ouais, sauf que t'as comme l'impression, de la façon dont c'est présenté dans The Disaster Artist, c'est vraiment malgré lui.
Ah.
Mais on sait pas, tu sais, parce que ça, c'est le film sur le film, fait que c'est dur de savoir. D'ailleurs, il y a, prochainement, va sortir le nouveau film de Tommy Wiseau qui s'appelle Be Friend. Donc, comme les, pas Be Friend, mais comme Befriend, là, comme
Ouais.
des ennemis, mais
Befriended.
rivales. Ouais, c'est ça. Fait que, avec Greg Sestero, encore une fois. Donc, bien hâte de voir ça, bien hâte de voir la suite. Si je tombe sur d'autres choses de Tommy Wiseau, je vais vous en parler.
Ok, ça a l'air douteux.
Oui,
Donc,
absolument, très douteux.
en fait, on écoutait pour notre série de coupe, on a regardé la saison 2 de 13 Reasons Why, ou en français de France, 13
Reasons Why.
Reasons Why.
Ouais, exact. Mais sérieusement, en fait, j'étais vraiment pas convaincu de le commencer.
Ouais, c'est vrai.
Tu sais,
Non,
quand on avait fini la 1...
tu voulais pas pantoute.
Non, c'est ça, mais quand on avait fini la 1, on était comme, ben moi j'étais particulièrement, ok,
Ouais.
c'est fini cette histoire-là, surtout qu'on sait que c'est adapté d'un livre, donc un tout petit livre qui est réellement la saison 1. Puis là tu te dis, ils vont faire une saison 2 de ça, qu'est-ce qui va arriver, puis tout, est-ce que ça va suivre ou ça va être autre
Ouais, c'est
chose?
ça. Puis en fait, c'est notre auditeur le plus fidèle qui nous a dit que c'était le procès, en fait, de la suite de la saison 1. Fait qu'on s'est dit, ah ben tu sais, il y a peut-être du potentiel. Donc, on l'a commencé, puis ben on l'a fini aussi. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une perspective. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé la façon que tous les sujets y ont été amenés, en fait, sur le suicide, parce que dans la première saison, on a vraiment la vision de la personne qui s'est suicidée, tandis que là, ce qui est cool dans la saison 2, c'est que tu te rends compte que la personne, elle avait plein de facettes, puis c'est pas tout le monde qui connaissait les mêmes facettes. Fait que c'est vraiment un élément central, tu sais, de la saison 2, puis je trouve que ça a été vraiment bien amené dans...
Non, ce côté-là, il est vraiment intéressant. Puis justement, on redécouvre une histoire qu'on connaît déjà. Donc, c'est pratiquement tous les mêmes moments qui se reproduisent. Parce qu'en gros, c'est la mère d'Anna Baker qui poursuit l'école. Dans le fond, en disant que l'école n'a pas été là. Donc, il va y avoir un procès entre la famille Baker et l'école. Et ben, plein de personnes vont venir témoigner, dans le fond, pour raconter. Parce que là, nous, on a toujours vu ce qui s'est passé, ben, toujours entendu ce qui s'est passé sur les cassettes, mais
Exact.
jamais sur la réalité. Et même là, encore une fois, la réalité, elle est trouble parce que c'est le témoignage de quelqu'un. Donc, est-ce que
La
il
personne
nous
est
dit la
honnête, ouais.
vérité ou il ment ou est-ce que lui a perçu ça de telle façon? Donc oui, très intéressant. J'ai trouvé aussi qu'ils vont quand même aller développer des personnages, continuer à développer des personnages et continuer à travailler sur des enjeux qui sont assez dur, hein, des
Ouais.
sujets difficiles.
Mais ça, on en reparlera peut-être un peu à la fin, mais les derniers épisodes sont vraiment durs. Puis c'est peut-être. On voit qu'ils s'en vont dans une autre direction après. Mais pour vraiment se concentrer sur qu'est-ce qui se passe dans la saison 2, il y a peut-être une chose qui je trouvais qui avait été raboutée un peu difficilement. Puis c'est vraiment sur Zach. Moi, je sais que toi, t'étais pas vraiment d'accord avec moi, mais le personnage, il avait quand même un rôle minoritaire, comme vraiment de second plan, tu sais, dans la première saison. Puis dans la deuxième saison, il y a vraiment comme une grosse place importante. Puis j'ai l'impression que ça, c'est un peu trop rajouté. Fait que ça, tu sais, parce que c'est comme impossible que tout ça se soit pas retrouvé sur les cassettes, tu sais, à mon avis. Tout qu'est-ce qui se passe avec lui.
Ouais, ben, c'est sûr que j'ai quand même l'impression que quand ils ont fait la 1, il n'y avait pas nécessairement une idée de faire la 2. Puis ça paraît un peu, dans le sens qu'il y a des affaires, t'es comme, ah ouais, c'est un peu bizarre, pis nanana, sauf qu'en même temps, non, effectivement.
Ben, c'était juste le seul élément qui était comme ça, je trouvais. Les autres, ça paraissait pas, tu sais, c'est assez bien fait. Je pense que c'est le comme ils ont bien raccordé les morceaux ensemble, à part ça que c'était.
Ouais, c'était un peu moins bien fait, effectivement.
Mais en fait, c'est comme un peu poche à dire, mais on est justement allé cette semaine à des funérailles pour quelqu'un qui s'est suicidé, puis ça, la série, c'était comme bizarre parce qu'on a comme écouté la série en même temps que ça s'est passé, fait que c'était comme vraiment un drôle de concours de circonstances, mais il y avait une chose qui a frappé un peu la famille quand t'allais rendre visite, et c'est que la vie de la personne était vraiment compartimentée. Fait que les personnes qui venaient comme rendre hommage, donner les condoléances, il y avait toute une vision vraiment particulière de la personne. Et je trouve que dans 13 Reasons Why, on voit vraiment ça. Chaque personne a la vision, sa propre vision d'Anna, ses propres souvenirs avec elle. Et en fait, c'est qu'elle aussi, tu sais, elle agissait pas de la même façon avec tout le monde non plus.
Ouais.
Fait que, en fait, ça m'a comme un peu choquée de voir que c'était vraiment réel aussi, tu sais, de voir ça vraiment dans la même semaine, tu sais, c'était comme...
Non, c'était quand même flagrant, tu sais, la réalité derrière ça, d'une certaine façon.
Exact, fait que, tu sais, moi, j'y crois, là, comme je me dis, tu sais, ça pourrait vraiment être la vie de quelqu'un, là, j'y croirais, tu sais.
Ouais, ben, ouais, c'est ça, c'est un peu extrême, là, ça reste que, tu sais, il y a des affaires, des fois, que t'es comme moins sûr. Une chose que j'ai particulièrement appréciée de la série, c'est qu'on voit Anna, on la voit quand même pas mal en fait, sans trop divulgâcher, c'est pas un gros punch parce que ça se passe dès les premiers épisodes, mais dans le fond, Clay, là, le personnage principal, va halluciner, ou en fait, bon, halluciner tout au long de la série Anna qui lui parle, mais dans le fond c'est vraiment dans sa tête, donc elle va pas nécessairement, c'est pas un fantôme qui vient la voir puis lui révéler des infos qu'il connaît pas, c'est vraiment comme sa conscience par rapport à la vision qu'il a d'elle, qu'est-ce qu'elle lui répondrait dans telle circonstance. J'ai trouvé que ce côté-là, il était vraiment intéressant aussi.
Mm-hmm.
Ça venait jouer sur les nuances, puis voir tout le processus de...
D'acceptation,
de questionnement, de doute. Et aussi, ça reste qu'un procès comme ça, tu te rends compte, tu demandes à des adolescents là, d'aller parler, d'aller témoigner, c'est de la grosse pression.
Ouais.
Puis ça va créer des vagues pour tout le monde. T'sais, les parents vont entendre des choses qu'ils auraient peut-être jamais entendues puis qu'ils devraient peut-être pas entendre non plus à un certain point. Les autres jeunes vont devoir dire des choses qu'ils auraient jamais dit en temps normal, mais qu'ils n'auront pas le choix de dire.
Ou qu'ils vont omettre de dire parce que pour eux, c'est juste trop, tu sais. En fait, tu sais, ils se disent, OK, oui, c'est vrai, on pourrait, tu sais, comme aider la cause d'Anna, mais en même temps... Moi, je dois vivre le reste de mes jours avec qu'est-ce que je vais dire devant. Fait que, tu sais, c'est trop de pression pour eux. Puis il y en a qui vont omettre des choses, puis qui vont décider qu'il faut qu'ils choisissent leur avenir par-dessus tout, tu sais.
Absolument.
Fait que...
Et là, il y a les parents là-dedans qui viennent, qui pensent toutes que leurs enfants sont blancs comme neige. Ouais. Mais là, vont se rendre compte que personne vraiment est blanc comme neige dans cette histoire-là. Mmh. Tout le monde a des choses à se reprocher. Même les parents, au final, qui, eux, accusent l'école, auront à réaliser qu'ils ont des choses à se reprocher.
Puis aussi, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Clay, qui était vraiment amoureux de Anna, il l'idéalisait énormément. Et là, dans le fond, il doit faire face avec des éléments qui brisent un peu l'image qu'il avait d'elle. Fait que, tu sais, il l'idéalise moins. Puis là, il commence à douter d'elle. Puis, tu sais, il se dit... Est-ce que tu sais, c'est normal que je me batte pour elle? Est-ce qu'elle méritait que je me batte pour sa cause? Fait que tu sais, il y a vraiment un gros tiraillement. Puis ça, je trouvais ça quand même intéressant parce que à un moment donné, justement, il chicane avec sa blonde, tu sais, puis elle dit, tu sais, comme Anna, elle va toujours être parfaite pour toi parce qu'elle est morte, tu sais. Puis il y a ça aussi qui est intéressant dans la série. Donc le seul bémol à mon avis, c'est la fin de la série. Parce qu'on comme dans le fond Simon tu me l'avais dit, ils vont avoir une troisième saison, puis ils ont décidé de profiter un peu de la vitrine de 13 Reasons Why pour aborder des sujets qui sont comme mettons l'intimidation à l'école, ces choses-là. Fait que tu sais, ils veulent prendre une nouvelle comme tangente, sauf que les deux derniers épisodes sont vraiment comme c'est raide, là. Qu'est-ce qu'on voit, là, c'est...
Ben, je sais pas les deux derniers épisodes. Il y a une scène en particulier qui... Puis tu sais, on va pas vous le dire comme ça, parce qu'il y en a sûrement pas mal qui l'ont pas écouté. Ceux qui l'ont écouté savent sûrement très bien de quelle scène on parle. On parle de la scène où Tyler, dans le fond, se fait attaquer dans les toilettes. On n'en dira pas plus pour ceux qui l'ont pas vu. Pour les autres, on va vous laisser... Ben, pour ceux qui l'ont vu, dans le fond, vous savez très bien de quoi on parle. Moi, j'ai trouvé que cette scène-là était... non nécessaire, surtout certaines choses, dans qu'il se fasse tabasser dans les toilettes, ok, tout qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, je vois pas l'intérêt de faire ça, tu sais, c'est vraiment juste pour choquer, j'ai l'impression, qu'ils ont poussé l'enveloppe pour choquer, dès le début, dès la fin de la saison 1, on le sait, Tyler a des armes chez lui, ok, on se dit, est-ce que c'est le genre de gars qui va aller faire une fusillade à l'école, est-ce que c'est le genre de choses qui va se passer, on le sait pas, on vous le dira pas non plus. Mais est-ce que les gens qui font des fusillades à l'école ont besoin de passer jusqu'à ce que à qu'est-ce que Tyler
toutes
passe
les étapes, ouais.
Pour sentir le besoin, ben pour se péter sa coche puis se pointer à l'école puis tuer du monde.
Non, sûrement ça en prend bien moins en fait.
C'est ça où ça. Là, c'est comme j'ai trouvé, ils ont vraiment poussé l'enveloppe puis ils ont dit ok, ben dans le fond, ça prend un acte atroce pour déclencher une espèce de psychose chez quelqu'un, alors que souvent ça va être tu sais, de l'intimidation constante, puis de des moqueries, ouais. C'est suffisant pour créer ça, alors que là, ils viennent comme mettre une barre un peu trop élevée, dans le sens qu'ils viennent de rendre le truc un peu trop irréaliste.
Ouais.
Ils viennent de pousser l'enveloppe, là, où, dans le fond, il y a vraiment des maniaques profonds dans cette école-là. Tu sais, Bryce, OK, oui, il l'a violé, Anna, il a violé Jess, tout ça, c'est un ado qui a des problèmes d'estime, qui...
Ben, c'est un maniaque aussi, là, mais pas...
Non, mais tu sais, c'est un maniaque qui pense que les filles l'aiment, puis comme, tu sais, il est dans une mauvaise réalité, il prend ce qu'il veut, tout ça. Mais comme, là, j'ai l'impression qu'avec tout ça, ils ont amené ça à une autre coche, vraiment de gratuité pure, là, t'sais, et d'incompréhension, là.
Ouais, ben, c'est juste qu'en même temps, moi, je me souviens qu'il y avait eu un scandale à l'Université McGill, qui est sur, mettons, des pratiques qu'il y avait, genre de violence, pis tout ça, entre des gens dans des équipes sportives, et ça ressemble vraiment à ce qui se passe dans 13 Reasons Why, mais est-ce que c'est pas un peu trop jeune pour du monde au secondaire, tu sais, je veux dire. C'est sûr que je connais pas ce qui se passe aux États-Unis, peut-être que c'est vraiment arrivé ce genre de choses-là, fait que...
Mais ça, c'est la chose peut-être qu'il faudrait voir, c'est ça. Si c'est quelque chose qui est fréquent, ou du moins qui s'est produit à quelques reprises, je peux accepter.
Parce que si je me dis c'est arrivé justement dans des initiations à l'université pour les gens qui rentrent, ben tu sors du cégep, tu sors, tu sais, c'est le high school américain un peu, là, c'était pas mal la même âge, fait que je peux y croire, mais... En tout cas, c'était quand même raide comme...
Non, mais surtout que ça arrive comme ça,
ouais.
Out of nowhere, sans avertissement, sans rien qui se passe, cette scène-là. Puis tu sais, c'est aussi, ça montre un peu, en une seconde, la vie peut vraiment basculer, tu sais.
Ouais.
Sauf que là, c'est pas en une seconde, la vie peut basculer, je me fais frapper par un char, là. C'est comme, il y a un esti de maniaque qui me fait des trucs vraiment pas concevables. Mais... C'est ça, je sais pas trop, là, j'ai l'impression qu'ils ont... Tu sais, c'est pas... Pour moi, 13 Reasons Why, c'est une série qui est supposée te faire réfléchir, puis de te...
Ouais.
T'amener... Pas nécessairement une série qui est supposée te choquer.
Ouais.
Et la série te prépare pas.
Non.
Oui, il y a des scènes lourdes, oui, des scènes de viol, c'est grave, c'est lourd, puis t'es comme, OK, tu sais, ça te donne envie que ça arrive jamais, puis que de t'opposer à ça.
Puis il y a quand même jamais rien, depuis la saison 1, là, on s'entend, il y a quand même rien d'explicité, comme le suicide d'Anna, tu sais, ils veulent pas le montrer vraiment à la caméra, parce qu'ils veulent, tu sais, c'est déjà tellement controversé, cette série-là, qu'ils voulaient pas, parce que, tu sais, oui, le suicide est contagieux aussi à quelque part, puis c'est des choses, ça peut donner des idées à du monde, là. Fait qu'ils ont quand même fait attention pour éviter des scènes explicites depuis le début, puis là, ils se sont comme vraiment permis de le faire, tu sais. Fait que ça, c'est ça aussi, le contraste, il est comme d'autant plus choquant vu qu'il avait fait comme...
Ouais, ouais, puis selon moi, ils se sont permis de le faire, mais ça ne fait pas progresser l'histoire.
Mm.
C'est vraiment quelque chose de gratuit qui est là pour choquer. Il y a rien qui va... Tu sais, cet élément-là n'est pas un élément déclencheur de rien. Oui, comment ils l'ont mis en scène, ça l'est.
Ouais.
Mais c'était pas nécessaire de l'avoir
non,
pour
c'est...
le déclenchement qu'on sait qui peut arriver depuis la fin de la saison 1.
Ouais.
Qu'on le sait que ça va arriver.
Ça aurait pu arriver n'importe quand, ouais.
C'est ça, exactement. Mais d'ailleurs, j'ai lu un peu là, sur les critiques de la saison 2. Puis la saison 2 a été pas très bien reçue, en fait.
OK.
Principalement pour des choses comme qu'est-ce qu'on vient de parler là.
Ouais.
Donc d'ailleurs des phrases comme c'est non nécessaire et traumatisant pour pas grand-chose.
Ouais. Fait qu'en tout cas, moi j'ai trouvé quand même que la façon qui parle dans le fond du suicide d'un autre point de vue était vraiment intéressante dans la deuxième saison. Ça vaut la peine de le regarder pour ça. Mais la façon que ça se termine la saison, ça m'a comme un peu comme écœurée de... Ça me tente pas d'écouter la troisième, tu sais.
Ouais, c'est qu'on va quand même l'écouter.
Ouais, mais ça m'a comme enlevé le goût, tu sais.
Ouais, tant qu'elle sort pas trop vite.
Fait que c'est ça.
Mais ouais, moi j'ai préféré la saison 2 à la première, malgré le fait que les critiques sont vraiment moins bonnes que sur la première saison.
Ouais.
Je trouvais que ça l'amenait un aspect intéressant, puis ça l'amenait aussi peut-être une vision qui était moins unilatérale,
mm-hmm,
et qui permet peut-être plus de se questionner sur certaines actions, puis ça va peut-être plus en détail sur certaines choses. T'es comme, ok, tu sais, ça fait plus de sens, ou tu sais, ça vient comme étoffer un peu l'histoire. Et ça vient traiter d'autres enjeux aussi qui sont assez intéressants.
Et oui, donc c'est pas mal ça qui clôt l'épisode.
Ben oui, absolument.
On se revoit la semaine prochaine.
Bye bye.
Bye.